This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessionals, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie.
Tout ce qu'on crée, c'est une réponse à la violence.
Il faut pouvoir occuper l'espace.
L'évolution qu'on est en train de vivre.
L'archive, c'est notre mémoire.
L'alimentation est pourtant un outil de transformation sociale puissant, essentiel à la lutte des classes qui est aussi une lutte des casseroles. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Nora Boisouni à l'occasion de la publication de son ouvrage « Manger les riches, la lutte des classes passe par l'assiette » chez Nourriture Fu. C'est parti. Bonsoir Nora.
Bonsoir.
Ça va être très intéressant de pouvoir lier en fait tout ce travail abattu qui a commencé en 2017. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même déjà un petit moment que tu réfléchis à toutes ces questions-là, qui sont les questions autour de l'alimentation. Ça a commencé avec ces fameux titres qui ne sont pas si faciles à dire.
Alors oui, sur le papier, sexisme, c'était une excellente idée. Parce que moi, j'étais, ah bah oui, sexisme, sexiste, tout le monde a capté le jeu de mots, on comprend de quoi ça parle. C'est un enfer. Les gens n'osent pas le prononcer. Vraiment, j'ai adoré votre livre, Steakisme. C'était vraiment super. Je veux dire, encore ce matin, quelqu'un m'a dit ça. J'ai offert à tout le monde Steakisme. Et donc, c'est parce que c'est Steakissime, ou Steakisme, ou plein d'autres trucs. Et je me dis, mais ça, pour moi, c'était tellement une bonne idée.
Heureusement, malgré tout, il y a un sous-titre. Donc, tu viens de parler de Steakisme, en finir avec le mythe de la végé et du viandard, mais qui était précédé, en fait, de...
Encore pareil. Donc, ça s'écrit F-A-I-M-I-N-I-S-M-E, et les gens me disent ça se prononce féminisme ou féminisme. Je suis là, maintenant je dis comme vous voulez. Mais encore une fois, on a faim, donc féminisme. Donc, voilà, le troisième, il n'y a pas de jeu de mots, parce que je me suis dit, c'est pas possible, on va pas non plus, j'aurais marre d'expliquer mes titres.
Comment
donc, féminisme, effectivement, quand le sexisme, et pas le sexisme, passe à table.
Oui, sinon, ça ferait vraiment...
Sinon, là, vraiment, ce serait vraiment compliqué, très compliqué. Là, ce serait des pièges.
Et donc, nous te recevons à l'occasion de la sortie du troisième, « Manger les riches, la lutte des classes passe par l'assiette ». Fameux programme, fameux travail, parce que même si on l'entend et on va retrouver cet humour et ce super rythme au travers de tous les livres, il y a quand même aussi vraiment un gros backup de chiffres, d'études et de réflexions. Donc bravo pour ça, parce que ça fait partie quand même d'une littérature qu'il nous manquait, en fait, d'aller à travers toutes ces thématiques-là pour mettre en lumière l'alimentation. Et c'est vrai que spontanément, on aurait envie de penser qu'on ne pense pas l'alimentation puisque c'est censé être inné, naturel, on doit se nourrir pour vivre, etc. Et toi, en fait, t'arrives et tu dis « Ah ben non, on va la penser, cette alimentation. » Et en plus, je vais vous montrer qu'on la pense très mal.
Je vous dis « Wait a minute, as-tu pensé à tout Et as-tu le seum assez aujourd'hui? As-tu envie d'être encore plus en colère? Ah, bon, c'est oui. Oui, en fait, c'est marrant que tu relèves les chiffres, l'enquête et tout, parce que pour mon premier livre, pour Féminisme, j'avais une interview où il y avait un homme, une femme qui m'interviewait. On m'a dit, alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est pas un livre de recettes. Et j'étais là, hein? Hein? Puis juste après, c'était, alors, votre livre, ça n'est pas un manifeste, ça n'est pas un tract, quoi. J'étais là, hein? Est-ce que vous dites pareil à Aymeric Caron, qui écrit des bouquins sur l'antispécisme? Est-ce que vous dites pareil à Hugo Clément, qui écrit des enquêtes? Non. Parce que je suis une femme et que je parle de questions de genre, et en l'occurrence, ça s'appelle féminisme, féminisme. Bah, on part du principe que c'est un manifeste, que c'est pas, que justement, c'est pas, il y a pas de chiffres, qu'il y a pas de statistiques, c'est pas factuel, qu'il y a pas une réflexion critique, que c'est un prêt-à-penser, tu vois, vraiment un truc méga politique dans le sens péjoratif pour ces gens-là du terme politique, quoi, un truc de vraiment de waouh, tu vois, no pasaran, quoi. Alors oui, c'est ça. Mais quand même, il y a du travail derrière, donc il y a vraiment cette présomption que t'es là juste pour dire. Ça, c'est nul, ça, c'est bien, soyez féministe, les hommes, c'est de la merde. Enfin, tu vois, il y a vraiment, on a l'impression que c'est que ça, que tu vas ne dire que ça. Et donc, oui, sur l'alimentation, en fait, en France, on parle de gastronomie, on adore. Ah oui, la France, Michelin, il y a des portraits de Cyril Lignac tous les deux jours. Thierry Marx, il est invité à la télé tout le temps pour nous dire que c'est bien, c'est bien de bien manger. Le mec, il va te dire comment dépenser ton RSA parce que tu le dépenses mal, parce que vous, les pauvres, nous, les pauvres, on sait pas de dépenser des choses, quoi. Et donc, j'en peux plus, en fait, d'entendre ça. Quand on parle d'inflation, on a que des gens pas concernés par l'inflation, mais c'est comme quand on parle de la ménopause sur CNews avec ce plateau extraordinaire avec six hommes, six genres, qui viennent te dire que, enfin, franchement, la ménopause, ça va bien deux minutes. Est-ce qu'on peut l'interdire comme l'aide médicale d'État? Et donc, je me suis dit, j'en ai un peu ras-le-bol, d'entendre des clichés comme ça coûte pas cher de bien manger, comme ah bah, les gens qui sont gros, c'est parce qu'ils veulent pas, c'est qu'ils n'ont aucune volonté, les gens minces, ils sont forcément vertueux et en bonne santé, qui gagne en fait à ce que l'inflation reste à son niveau là, que t'as Leclerc et le patron de Lidl ou d'Intermarché qui viennent nous expliquer que eux, ouin ouin ouin, ils sont là pour notre pouvoir d'achat. Ça m'a rendu complètement énervée. Et je me suis dit, en fait, j'aimerais bien qu'on parle d'alimentation en France et pas de gastronomie et pas de restaurant, parce que c'est un truc de privilégié, le restaurant, et qu'on mette les pieds dans le plat. Lol. Non, vraiment, j'ai envie de poser des questions qui fâchent aussi. Et en France, parler d'alimentation, c'est pas bien vu parce que c'est trop vulgaire, vous comprenez, il faut parler des Michelin. Et les Michelin, on parle pas d'alimentation, on parle de restaurant, on parle de chef, on parle de sophistication, d'expertise, on est vraiment dans des trucs, voilà. Et il y a un côté très... on jette un voile pudique en fait sur la question de la consommation alimentaire, en fait c'est ça, parce que on cloisonne beaucoup, quoi. C'est-à-dire qu'on va parler de la conso, ça reste dans les trucs de conso, vous voyez, on a des gens qui viennent en plateau à France 2 vous faire un petit plateau avec les chiffres de l'inflation et le riz a pris tant et tout, et ou alors on va un sujet sur les restos du cœur et puis c'est tout, quoi. Et on va pas chercher plus loin, on parle pas de ce que c'est l'aide alimentaire, on parle pas de qui en profite de l'aide alimentaire, et l'État en premier, l'entreprise ensuite. Donc y a non seulement les concernés n'ont pas la parole, mais en plus le système alimentaire global, en fait, personne n'a envie d'en parler dans des médias mainstream et de corréler ça à d'autres choses. Et donc j'en avais vraiment ras-le-bol. Ferme tes bols, c'est dans l'histoire de ma vie, j'en ai ras-le-bol, j'ai la chance de pouvoir écrire des choses et de faire des recherches.
Ce qui m'a intriguée, évidemment, c'est donc ce que je disais, cette façon en fait de remettre la pensée au cœur de cet élément central de nos vies. Et en lisant tes livres, je me suis dit, bah enfin, en fait, je vais comprendre ce qui se passe en fait dans mon alimentation, comment on a pu me la transmettre, etc. En tant que femme, ce que ça voulait dire, se nourrir, etc. Enfin, en tout cas, tu nous fais un cheminement. Qui est vraiment très important, en fait, pour qu'on comprenne mieux et qu'on se positionne mieux. Dans « Manger les riches », donc ce titre incroyable, qui est ensuite la toute fin aussi de ton livre, c'est le dernier mot, puisque tout ton raisonnement va nous permettre de comprendre comment l'alimentation fait partie d'un système, et que ce système, il est, comme pour tout, patriarcal et capitaliste. Et dans tout ce déroulement, en fait, on va passer par des étapes cruciales qui sont moi, j'ai trouvé extrêmement rageuse et violente. C'est-à-dire que, enfin, ton premier chapitre, qui, là, pour le coup, t'as des chiffres à foison.
Ouais, il y en a beaucoup, mais c'était nécessaire. Ouais.
Il est très, très dense, mais c'est la bonne façon, en fait, de se représenter de qui on parle, en fait. Parce que tu ne vas pas nous parler de fruits, légumes, de comment cultiver, etc. Non, tu vas nous montrer, en fait, tout en haut de cette pyramide de ceux qui maîtrisent, en fait, et qui dirige l'alimentation, qui sont-ils?
Qui
en fait
tire les ficelles?
Mais oui, c'est ça. Mais c'est exactement ça.
C'est vraiment ça. C'est ça. Mais en fait, quand j'écrivais le livre et quand j'en parle, j'ai l'impression d'être complotiste parce que vraiment, pour le coup, il y a quatre entreprises qui contrôlent 99% des céréales qui circulent dans le monde, par exemple. Quatre. Incroyable. Sur les semences, c'est pareil. Il y en a quatre qui contrôlent plus de la moitié des semences dans le monde, dont Bayer qui a racheté Monsanto. Mais en fait, c'est vraiment ça. Donc c'est... Mais quand on le dit ou qu'on l'écrit ou quand on en parle, on a l'impression que bah, de passer pour quelqu'un un peu d'illuminé, qui est perché, qui croit que et des gens... Mais bien sûr que oui, en fait. C'est-à-dire que dans ce milieu-là, oui, il y a des gens qui tirent des ficelles. Et on ne peut pas le dire autrement. C'est un fait établi, on le sait. Il y a une situation de monopole, il y a un oligopole aussi. Il y a quelques personnes qui se gavent, littéralement. Donc, ça me... En fait, c'est comme les deux premiers livres, quoi. Pour moi, tout s'inscrit dans un système, dans plusieurs systèmes, et j'ai envie qu'on pense ces systèmes juste pour déjà être au courant, enfin savoir en fait de quoi on parle, de qui on parle, d'avoir une pensée critique sur plein de choses, de vraiment, par exemple, de quoi on parle quand on parle de pouvoir d'achat. Moi, j'aime pas ce mot, quoi. Pourquoi je l'aime pas? Bah parce que il y a une notion de consommation à chaque fois, et moi, je préfère parler de reste à vivre. Parce que l'argent qu'on peut toucher, qu'on peut avoir, c'est pas forcément de l'argent pour acheter quelque chose. Donc moi, je déteste les formes de pouvoir d'achat, parce qu'on ne parle que de ça, et le mot « reste à vivre », on ne le trouve que dans les travaux des sociologues, par exemple, ou des économistes. Parce qu'elle parle de reste à vivre, parce que c'est littéralement ça qu'on a, c'est pour vivre, il nous reste quoi? Et vivre, c'est pas juste aller faire ses courses à Leclerc, quoi. Ou aller acheter des chaussures, bah, bon. Donc, c'est un peu remettre les choses, voilà, de dire, voilà, bon, il y a, enfin, je parle, dans le bouquin, je pars de macro et je vais à micro. Donc, je pars effectivement d'un chapitre un peu aride sur l'économie et la finance, pour qu'on comprenne, voilà, de qui, quoi, qu'est-ce, comment, combien, quand, à qui profite le crime. Et je finis sur nos habitudes alimentaires, les comportements, entre guillemets, bon goût, mauvais goût, de la sociologie, quoi, de la stigmatisation des personnes issues des classes populaires qui, quand elles ont un comportement alimentaire qui est le même que des critiques gastro, eh ben, elles, on va leur cracher dessus et on va dire que c'est pas des bons pauvres parce qu'ils ont mangé des burgers cette semaine, plusieurs, alors qu'un critique qui fait le tour de Paris pour trouver le meilleur burger de Paris, on va trouver ça absolument génial. Il y a un chroniqueur au Monde qui s'appelle, son nom de famille, c'est Pitel, Gabriel, je sais plus, Pitel, qui est le chroniqueur bec sucré du Monde, et donc qui... je le connais pas, donc j'ai rien contre ce monsieur, enfin, je m'en fous, il fait sa vie, sauf que lui, il va donc avoir ce métier incroyable qui consiste à goûter toutes les tartes tatin de Paris, non mais c'est vrai, toutes les galettes des rois, et de dire, celle-là, c'est la meilleure, c'est donc il fait le top 10 des galettes, donc je sais pas combien de galettes des rois il mange. Ouais, moi, il s'enfile des gadors. Moi, j'adore la galette des rois, donc je serais ravie de l'aider. Mais en tout cas, lui, il est validé, il est légitime, et il mange plein de galettes des rois, et personne ne va lui dire, mais dis donc, Gabi, tu t'en es quand même à ta 25e galette. Dis donc, pour ta santé, c'est pas très bon, quand même. Et si tu prends quelqu'un qui touche un RSA et qui va manger des galettes, parce que juste, bah, elle a envie de manger des galettes, et puis ça la regarde bien, bah, on va dire, ah, bah, ça, elle est pauvre. Bah, ils savent pas se nourrir, les pauvres, évidemment que c'est pas bon pour la santé de manger des galettes, quoi, tu vois. Donc, ça m'intéressait aussi de savoir ça, et puis je parle du fooding aussi, pour qui je travaille, par ailleurs. Je critique pas des restos, moi, mais d'un point de vue sociologique, ça veut dire quoi aussi, et linguistique, d'écrire le mot pinard pour parler d'une bouteille à 45 euros, quoi. C'est pas anodin d'utiliser le mot jaja, pif, pinard, bouclard, gueuleton, pour parler de restaurant à 90 balles par tête, quoi. Donc, c'est... J'avais vraiment envie qu'on se pose la question. Sur le fooding, par exemple, il y a plein de gens qui m'ont dit, qui m'ont dit, t'as mis le doigt sur un truc que j'avais pas identifié avec les néologismes du fooding. Et c'est ça, en fait. C'est cette façon d'en parler, de parler de la nourriture pour neutraliser un aspect élitiste, snob, etc., pour faire croire que ça s'y va tout le monde, quoi. Et j'avais envie vraiment de prendre tout ça, en fait, d'essayer d'en condenser dans un livre. Donc, c'est vrai que c'est dense parce que j'ai pas le choix, c'est ma petite maquette. Mais ouais, parce que pour moi, C'est comme c'est pour ça que le mot woke, moi j'adore ce mot, parce qu'il y a vraiment c'est le vrai côté, tu te réveilles, tu ouvres les yeux et d'un coup tu fais oh! Et tu peux plus ne plus jamais voir, en fait tu sais, c'est cannot be unseen, quoi. Et quand je fais des conférences sur le genre et l'alimentation, je montre des publicités et je les commente, on les commente ensemble et tout, on les décrypte, et dans la salle il y a toujours des gens qui sont là, oh, mais j'avais jamais remarqué qu'en fait il y a tel mot qui revient, telle musique, la voix suave qui dit envoûtant, une saveur inoubliable, voilà. Et toujours avec des voix comme ça, et puis quelles couleurs sont utilisées, les gros plans sur la bouche des femmes, sur les yeux, les pupilles dilatées et tout, et plein de gens viennent me voir et me disent, mais en fait c'est fou, c'est fait exprès, la pub ça dure 5 secondes, on n'est pas là, on met pas pause pour décrypter, faire alors attention, parce que je viens de voir cette pub McDonald's. Et moi j'aime bien montrer ça, vraiment, tu mets tes lunettes comme tu mets tes lunettes du genre, tu mets tes lunettes aussi de lutte des classes, et tu fais genre, ah bon bah alors ça en fait, j'avais jamais fait gaffe, mais maintenant que tu me le dis, maintenant que je l'ai lu, maintenant que je l'ai écrit, je ne vois que ça, quoi. Et c'est ça que j'aime bien, parce que moi ça me... En fait quand j'écris des livres, je vais un peu chez l'ophtalmo, quoi. Je me fais un peu corriger la vie sur des trucs, et après j'ai dit tenez. Voici des lunettes aux gens, des lunettes pour manger les riches.
Avant de continuer de rentrer plus en profondeur dans ton dernier livre, je me suis posé la question de comment, en fait, ton cheminement, parce que on peut comprendre l'arrivée de féminisme, suivi ensuite par sexisme, mais en fait. Ce sont de ce fait les études, la question des féminismes du genre qui t'ont d'abord percuté et qui ensuite sont arrivées, est arrivée la lutte des classes, où tu avais déjà ce projet des trois livres. Parce que, en fait, j'ai l'impression que depuis MeToo, etc., en effet, on pense par les féminismes et c'est bien heureux, cette idée des féminismes se développe et englobe de plus en plus de causes et de luttes, etc. Mais j'ai aussi l'impression que les luttes des classes, elles arrivent vraiment en tout petit, en fait, dans cet endroit-là. Et donc, voyant évidemment l'importance du travail que tu as mené ici, c'était ton plan de le faire en trois, ou en fait, tout comme moi, à un certain moment, tu t'es dit, non mais il nous manque un axe, il nous manque une lunette là en fait.
Je vais pas faire semblant que c'est moi qui ai eu l'idée du premier livre, c'est Nourriture Feu qui est venu me chercher en me disant, t'écris sur le genre, t'écris sur la bouffe, tu veux pas faire un truc qui parlerait de genre et de bouffe. J'ai dit, ok. Sexisme, c'est moi qui ai eu l'idée d'en faire un deuxième. Et sur Manger les riches, Antonin et Anne de Nourriture Fumée avaient proposé un autre livre qui n'était pas du tout Manger les riches, mais qui était un guide. Ça parlait d'argent, mais moi, les guides, c'est pas mon truc, et j'avais pas envie d'en parler comme ça. Mais j'ai dit, hey, en revanche, j'ai une autre idée. Et c'est devenu Manger les riches. En fait, moi, c'est pas du tout dans ce sens-là que ça s'est passé non plus politiquement, on va dire. Je viens d'une famille prolo. Ma mère, enfin, mes parents sont retraités maintenant, mais ma mère, elle est assistante maternelle, et mon père était donc retraité, mais il est. Et donc, il était électricien dans le bâtiment. Mes parents, ils ont arrêté l'école à 14 ans. Dans ma famille, il y a toujours eu des galères de thunes. Je suis la première à faire des études supérieures. Donc, je viens d'une famille où l'argent a toujours et est encore un problème. Et où ma mère faisait de la bouffe, des gamelles, des trucs. Fallait pas gâcher la moindre bouffe. Évidemment, ça a coûté une blinde. Moi, j'avais honte qu'on aille à Lidl. C'était la grosse teon. C'était avant que les riches fassent des cosplays de pauvres en achetant des tongs Lidl. Ça me rend complètement folle. Et donc, quand tu viens d'une famille comme ça, forcément, mes parents sont pas du tout politisés. Dans le sens, mon père, il a pas le droit de vote. De toute façon, il est kabyle et il est pas naturalisé français. Il a refusé de demander sa nationalité française. Ma mère, elle vote au présidentiel, quoi. Pas ailleurs, quoi. Peut-être municipal, vite fait. Donc, je savais bien de quel bord on était. T'es de gauche, forcément. Mais moi, vu que j'ai pas été dans une famille où on lisait les journaux, on n'écoutait pas France Inter ou quoi, enfin, tu vois, et ni une famille syndicaliste ouvrière, donc ni le côté culture légitime de la bourgeoisie ou de la classe moyenne, ni le côté ouvrier en lutte syndicale et tout, quoi. Donc, j'ai pas du tout été politisée chez moi. Mais il y a quand même un truc où tu vois bien d'où tu viens, tu vois bien les injustices et la différence. Surtout quand j'étais au lycée, parce qu'au lycée, j'étais à Chantilly. Chantilly, ville du cheval, ville d'Éric Werth, ville de droite, où tout est magnifique et propre et waouh, et où tout est, et où j'ai découvert ce que c'était que d'avoir des amis qui ont une piscine et dont la mère ne travaille pas parce que le père est pilote d'avion, quoi. Et non, mais pour de vrai. Et du coup, la maman d'une de mes amies, sa mère passait ses journées à boire comme dans les séries américaines. Et ou alors elle allait se refaire faire une permanente, les ongles, des massages. Enfin vraiment ce que moi j'ai vu dans les séries américaines quoi. Enfin je savais pas que ça existait en vrai quoi. Je pensais que c'était qu'aux États-Unis. Et donc là j'ai découvert ce que c'était les riches vraiment parce que toute ma scolarité il y avait des gens plutôt classe moyenne, il y avait pas de riches. Il y avait peut-être une petite bourgeoisie de temps en temps, mais on était tous des enfants d'ouvriers. Donc ça heurte. Enfin, tu t'es forcément confronté à ça, donc tu développes une conscience politique. C'est obligatoire. T'as quand même quelque chose en tête. Donc j'avais cette conscience-là, mais c'est vrai que je m'autorisais pas à lire des essais en fait pendant très longtemps parce que pour moi c'était un truc de bourgeois les essais. Je me suis dit que j'ai encore plus de la sociologie, tu vois. Je me dis j'ai pas les codes, j'ai pas fait les études pour. Il y a du name dropping, j'ai pas lu, je sais pas qui est Bourdieu. Enfin tu vois, j'étais là, genre, de quoi tu me parles. Moi j'ai fait des études d'anglais, j'ai une licence d'anglais, c'est tout. Et donc sensibiliser aux gens avec des profs justement dont je me suis rendu compte après que j'avais un crush parce que elles étaient gouines évidemment, mais tu vois elles le disaient pas, donc j'étais là. C'est peut-être ça en fait qui. Tu vois. Donc c'était vraiment vraiment chouette quoi d'en parler, mais en fait c'est pour moi la chose la plus accessible ça a été les féminismes. En termes de littérature, tu vois, évidemment King Kong Theory comme toutes les féministes trentenaires, tu vois, m'a ouvert les yeux machin. Non mais tu vois c'est très cliché de le dire, mais c'est vrai, c'était King Kong Theory moi qui m'a waouh, c'était radical pour moi. Alors j'avais lu d'autres trucs avant, j'ai un peu parlé, je traînais avec les barbiturix à Paris il y a très 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 longtemps, dans les premières soirées qu'on faisait la Flèche d'Or, et donc j'avais été sensibilisée à ça, j'écoutais beaucoup et tout. Mais je lisais pas spécialement des choses là-dessus, ça me semblait un peu trop compliqué, tu vois, parce que t'avais beaucoup de penseuses, mais tu vois, Judith Butler, qui comprend Judith Butler en vrai, enfin, tu vois, tout le monde fait sûrement de l'avoir lu, donc c'est assez intéressant. C'est comme Bourdieu d'ailleurs, hein, qui a lu La Distinction en entier, pas moi en tout cas, j'en parle mais je l'ai pas lu en entier, je vais pas faire semblant. Mais donc, et en fait, plus ça va, plus je suis dans ces milieux féministes, et puis voilà, plus je me désole de voir que La Lutte des Classes n'existe tout simplement pas, quoi. Enfin, je veux dire, ça, c'est complètement passé. Alors, toutes les féministes, elles vont vous dire, alors moi, je vais dire d'où je parle. Donc c'est le nouveau truc, ça. Apparemment, ça te dédouane de tout. Donc t'es, je parle, moi, je suis blanche, bourgeoise, machin, j'ai vécu, mes parents font ci, font ça. Et t'as l'impression que du coup, ça leur permet d'avoir une espèce de totem d'immunité, de ne jamais parler de lutte des classes. Ou bien, elles vont pas te dire d'où elles viennent. Donc en fait, t'as toujours une espèce de flou artistique, où en fait, quand tu découvres que c'est des filles, et c'est pas contre elles que je dis ça, mais tu vois, qui sont issues d'une grande bourgeoisie ou de la bourgeoisie, et qu'elles ont fait Sciences Po, que les parents sont ambassadeurs ou je ne sais quoi, t'es là genre ah. Enfin, tu comprends mieux plein de choses, mais qui sont des non-dits. Enfin, et en fait, la lutte des classes, c'est d'une part, ça a été un impensé, mais ça n'a pas été depuis le début, puisque tu avais des syndicalistes, eux, tu vois, qui en parlaient, et on leur a dit ta gueule, le féminisme, ça viendra après la lutte des classes, justement. Là, on est en train de retourner le truc. On dit le féminisme, ça doit venir. Enfin, comme si on ne pouvait pas intersectionner tout, en fait, s'il vous plaît. Et c'est pareil avec les luttes antiracistes, décoloniales et tout, quoi. C'est censé venir après, c'est censé venir. Tu vois, c'est genre, d'abord on fait ça, puis après on fait ça, puis peut-être qu'après on fera ça, les luttes queer, c'est pareil, quoi. Donc, au fond, moi, c'était au début, j'ai vécu du racisme, j'ai un white passing, mais je le vis encore, le racisme. Donc, en fait, moi, c'était avant, enfin, pour moi, ça, la politique, elle englobait tout ça, enfin, tu vois, c'est... Mais je trouvais que c'était super dur de se politiser dans le sens politique, genre gauche, machin, ou droite, ou bidule, parce que pour moi, c'était un truc... j'avais pas les codes, quoi. Et là où j'étais, là où j'ai grandi, personne n'était vraiment politisé, quoi. Même au lycée, au collège, il n'y avait personne qui en parlait. J'ai fait la manif, tu vois, quand Le Pen est passé au deuxième tour, machin. Enfin, au premier tour, pardon. Au deuxième tour, Inch'Allah, ça n'arrivera jamais. mais je trouvais ça assez inaccessible, en fait. Mm-hmm. Alors que pour moi, les féminismes ont été une porte d'accès, justement, à structurer une pensée critique et à lire des choses, à accéder, à parler avec des militants, des activistes et tout, quoi. Et que justement, la lutte des classes, pour moi, brille par son absence dans un nombre de productions féministes. C'est absolument terrible, quoi. Que ce soit des livres ou des festivals, des podcasts, où jamais on parle de thunes, en fait, quoi. Et quand on découvre des girl boss qui traitent hyper mal les personnes avec qui elles travaillent, qu'elles exploitent, ça pique.
Oui.
Ça pique très fort. Et il y en a plein qui ne veulent pas le voir ou le savoir. Et voilà, et on découvre qu'en fait, on peut être féministe et avoir 12 stagiaires qu'on exploite allègrement, et apparemment, c'est pas très grave, parce qu'apparemment, c'est quand même être féministe. Mais bon, peut-être que j'ai pas compris.
Peut-être qu'il y a aussi, en fait, le temps en fait, qui a fait que maintenant, il y a un bagage qui a été surdéployé sur plein de sujets des féminismes, et qu'on va plus pouvoir y échapper, en fait, à cette lutte des classes. Ou en tout cas... sans lutte des classes, on n'ira nulle part.
Pour moi, il y a une volonté d'avoir mis de côté la lutte des classes, quoi. Mmh. En disant, de toute façon, en fait, il y a un côté un peu décourageant, genre, bah, de toute façon, le capitalisme, tu vois, genre, bah, c'est comme ça qu'on va vivre, donc, bon, bah, essayons de faire autre chose, tu vois, de prendre ça par un autre bout, de s'occuper des discriminations. Mais en fait, tout est lié, donc tu peux pas te dire, je laisse tomber ça, et du coup, je m'occupe de ça. C'est pas possible, en fait. Mmh. Et j'ai l'impression que, ouais, ça arrange bien des gens de pas parler de thunes. Mmh. Tu vois, ça arrange bien des gens de pas dire quelles études ils ont fait, combien d'argent ils ont gagné avec tel livre, quel salaire ils ou elles s'octroient dans leur boîte, qui est une boîte apparemment super féministe. Enfin, toi, il y a un vrai truc, quoi. Il y a un vrai truc de qui exploite qui. On est vraiment sur ça, tu vois, sur l'exploitation de la force de travail. Qui gagne de l'argent? Qui gagne de l'argent en étant féministe, tu vois? Qui gagne de l'argent avec ces luttes-là et qui se fait exploiter encore et encore comme d'habitude avec ces luttes-là?
On se dit que dans la mesure où, en fait, j'imagine que, et je vois, en fait, que tu as un lectorat fidèle, c'est-à-dire que les livres s'enchaînent, et donc d'en arriver là, c'est un peu j'ai l'impression, cette sorte d'apogée où maintenant, comme tu le disais, on met les pieds dans le plat. Et donc, tout ce que tu viens de dire, et on voit bien la construction, en fait, de pensée que tu mets autour de ce livre, c'est que tu vas, en fait, partir de ce sujet de l'alimentation, pour vraiment désinguer tout un système autour du fait de se nourrir, de produire la nourriture, qui fait la nourriture, etc. Mais à travers ce prisme-là, en fait, c'est une vraie critique totale et globale de la manière dont on fait société. Et tu vas vraiment aller à chaque endroit de cette énorme chaîne, de cet énorme monde, de tout ce microcosme, même pas micro, parce qu'en fait, c'est halluciné, enfin c'est très très grand en fait tout ce que tu nous racontes, et à chaque fois tu nous dis bon ben voilà, en fait ça par exemple quand tu parlais des aides alimentaires, moi c'est tout un sujet que je ne connaissais pas à ce niveau-là de détail en fait, quand tu nous dis toutes les possibilités, qui en bénéficie, le nombre de femmes, le nombre de personnes monoparentales, enfin en fait tu vas nous décrypter la société par l'argent qu'elle peut mettre, en fait, ou pas, surtout, dans la nourriture. Toutes ces informations-là...
Je les ai inventées.
Bon, bonne soirée. Non, mais il a fallu aller... parce que tu nous parles de ça, mais assez à tous les endroits, en fait. Tes sources, bon, c'est que tu es journaliste, hein, donc c'est ton métier aussi de sourcer, mais c'est des informations qui sont facilement trouvables. Comment on trouve ça? Est-ce que n'importe
qui
peut trouver ça?
En fait, c'est ça qui m'énerve. Par exemple, pour sexisme, je pars de la question où je me suis dit, bon, est-ce que les femmes et les hommes mangent? Alors, je parle de femmes et d'hommes cisgenres parce que c'est les seules statistiques qu'on a, hein. C'est pour ça que je dis femmes et hommes. Est-ce qu'on mange de la même manière? Ou est-ce que, effectivement, les hommes mangent, comme on imagine, plus de viande, boivent plus d'alcool? Est-ce que les femmes mangent plus de soupe, je ne sais quoi? Oui. La réponse est oui. Mais on va pas s'arrêter là, parce que c'est trop facile. Parce que sinon, on naturalise tout, voilà. Bah, la question, c'est pourquoi? Pourquoi les hommes mangent deux fois plus de viande rouge que les femmes? Pourquoi ils boivent trois fois plus d'alcool? Pourquoi ils... Voilà. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et pour connaître les statistiques, eh ben, vous googlez juste ça. Femmes, hommes, régime alimentaire ou bien consommation, France, population, et vous tombez tout de suite sur le rapport INCA3 qui est accessible à tout le monde avec une version très détaillée et une version résumée. Tous les chiffres sont là. Il y a les chiffres sur l'âge, la catégorie socio-professionnelle, il y a tout. C'est du déclaratif, donc vous avez toutes les régions. Vous savez dans quelle région, département français, on mange le plus de tartare de bœuf, par exemple. C'est très précis. Qui mange le plus de sushis, c'est les hommes en Ile-de-France. Voilà, par exemple. Non, mais c'est vrai, par exemple. Et donc, la question, c'est pourquoi? Et donc, moi, les sources que j'ai, je ne suis pas universitaire, mais je lis plein de choses universitaires parce que c'est là où les gens travaillent sur ces questions depuis très longtemps et que tout le monde s'en fout et qu'on les invite jamais à en parler à la télé, alors que c'est des gens qui, quand même, savent sur le bout des doigts le moindre chiffre, le moindre truc, et qui rencontrent les personnes concernées aussi, qui vont sur le terrain. Donc, c'est quand même les premières et premiers interlocutrices, si on veut avoir vraiment un vrai débat, une vraie discussion et un vrai regard sur ces enjeux-là, pardon. Mais tout ce que je trouve, c'est disponible en ligne. C'est-à-dire que pour les articles universitaires, je les paye pas, ils coûtent trop cher, je peux pas les payer. Et j'ai pas les accès universitaires, mais du coup, il y a plein de trucs, il y a plein de moyens détournés d'avoir accès si vous voulez, je vous donnerai les trucs. Mais voilà. Non, mais il y a plein de, d'accès pour avoir accès, justement, pour accéder à toutes ces, tous ces papiers, ces études, etc. Mais c'est disponible en ligne. C'est un travail, effectivement, de recherche classique, on va dire, de journaliste ou de chercheuse. Donc, c'est pas caché. Et donc, ce qui m'énerve, c'est quand vous avez, par exemple, quand j'ai écrit Stexisme, l'année où j'ai sorti Stexisme, il y a Julien de Normandie, ex-ministre de l'Agriculture, formidable, non, qui s'est complètement insurgé parce que, donc c'était pendant le Covid, enfin juste après le Covid, que dans les cantines lyonnaises, Lyon qui était passé aux mains des méchants écologistes, des éco-terroristes, et qu'il s'insurgeait qu'on ne serve plus de viande. De viande, juste de la viande. Ils servent encore d'autres protéines animales, mais à cause du protocole Covid, c'était trop compliqué de servir de la viande. Donc c'était pas, même pas un geste politique en disant on va retirer la viande de l'assiette des enfants. Il restait du poisson, donc des animaux morts encore, et il restait d'autres protéines animales. Je veux dire, il y avait des œufs, du fromage, des laitages. Donc ils ont pas dit cette cantine sera vegan, point barre, quoi. Donc, bon, déjà, voilà. Et on a entendu, donc il y a eu plein de ministres qui ont défilé, évidemment, à la radio, à la télé, pour dire oui, oui, alors oui, on enlève. Non, c'est des cantines végétariennes. Alors, t'es là, le mot végétarien, tu l'as pas très bien compris, mon gars, parce que le poisson, c'est pas une plante, ça ne pousse pas sur un arbre, même si on parle de fruits de mer, je n'ai jamais compris pourquoi on parle de fruits de mer, n'importe quoi. Mais que les Anglais parlent de seafood, tu vois, c'est logique, mais fruits de mer. En fait, vraiment, j'aimerais bien qu'on m'explique fruits de mer. C'est... Parce que, en fait, cueillir des huîtres, apparemment, c'est... Hop, tu vois, bon. Bon, fruits de mer, si vous voulez. Pas légumes, attention, parce que c'est pas vrai. Fruits de mer. Je suis toujours consternée par fruits de mer. Mais, bref, je digresse. Et donc, il vient, et puis il dit oui, c'est dégueulasse. En gros, parce qu'il dit pas ça. Mais il dit oui, et il dit surtout, un truc qui m'a... Et donc, j'en ai écrit un article 2 jours après, parce que ça m'a tellement énervée. Il dit, le fait d'enlever la viande des cantines, c'est défavorable aux classes populaires. Ah! On adore quand la droite s'intéresse aux classes populaires pour les instrumentaliser à des fins politiques, pour défoncer la gueule de ELV. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et donc, il dit ça. Bon, sauf que moi, j'ai écrit un livre dessus, donc je connais le sujet par cœur. Surtout sur la viande et qui mange la viande, qui mange quoi. Et donc, il suffit d'aller, et c'est quand même le ministre de l'Agriculture. L'étude INCA3, elle est d'un organisme qui est sous tutelle du ministre de l'Agriculture. Donc c'est pas un rapport tu vois, qui sort de je ne sais où, qui est dur à trouver. Ça. Et donc j'ai écrit un article pour dire faux. Non mais vraiment, genre c'est faux. En fait, ce qui manque aux enfants des classes populaires, c'est des légumes et du poisson et des fruits. C'est ce que ces gamins et gamines-là ne mangent qu'à la cantine, souvent parce qu'à la maison, il n'y a pas les moyens d'en avoir. Surtout pas la viande. La viande ne manque pas. C'est pas le truc qui fait qu'ils vont être en mauvaise santé. Donc le mec... Et partout, je crois que Darmanin aussi était passé à la radio sur Inter, en plus, en matinale, pour balancer un truc. Et en face, il y a des journalistes qui, on ne peut pas tout savoir. Donc moi, je ne blâme pas mes confrères, mais quand c'est systématiquement, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Vous avez quelqu'un qui est un membre du gouvernement qui vient vous asséner un chiffre. Vous n'avez personne dans l'oreillette qui fact-check en même temps, à part dans les émissions où c'est fait pour quoi. Et c'est compliqué en direct de lui dire « vous mentez », à part si vous connaissez le chiffre. Mais vous m'auriez invité face à... Non, j'aurais dit, faux, calomniez-vous, mentez. Non, mais en vrai, c'est ça aussi. Pourquoi on n'invite pas, je sais pas, une chercheuse, un chercheur qui peut lui dire, bah, en fait, vous vous trompez, c'est faux, vous instrumentalisez ça. Donc, tu vois. Et donc, moi, ça m'intéresse parce que, justement, ces sources-là, elles sont disponibles à tout un chacun, ou presque. Ça, c'est Bernard, c'est le fantôme de Bernard Arnault, de Darmanin, qui vient de faire tomber un truc derrière, quoi. C'est comme la pluie, c'est la tempête, Bernard Arnault. Moi, je propose qu'on donne le nom des riches aux tempêtes. Pardon, mais moi c'est ma mesure dans mon programme parce que c'est eux qui foutent la merde en fait. Donc je propose qu'on appelle tu vois les tempêtes totales ou tu vois des trucs comme ça. Ce serait vraiment assez cool de sponsoriser la Coupe du Monde de rugby. Bref, voilà, parce que c'est mon projet. Et du coup, non, voilà. Et donc je me dis rendre accessibles ces sources dans des livres qui sont pas des livres genre mono sujet. Moi, ça qui m'intéresse, parce que acheter un livre, c'est un investissement, ça coûte 15 euros. Mes livres coûtent 15 euros, donc je sais que c'est beaucoup. Mais je ne touche pas beaucoup dessus. On touche 1 euro par livre, pour vous dire à peu près les auteurs, autrices. On touche 1 euro par livre. Voilà, c'est ça en général. Et sur les poches, on touche encore moins. Mais du coup, faire un bouquin mono-thème, c'est très bien. Mais moi, sur des sujets pareils, j'ai envie justement d'embrasser un peu tout, d'englober tout, pour qu'on puisse en avoir pour son argent aussi. Et parce que c'est systémique. Et donc, j'aime bien l'idée de pouvoir donner des ressources aussi pour les gens qui veulent aller plus loin. Donc je donne toutes les sources et tout, et je les mets en note de bas de page sur chaque page, parce que je déteste les livres où les notes de bas de page sont à la fin, ça m'énerve beaucoup. Surtout quand c'est pas que des sources, parce que c'est que des sources, je m'en fous, je vais les voir à la fin, mais quand il y a des blagues... Du coup, à la fin, t'es là, genre... Je comprends rien, c'est un cadavre exquis, c'était drôle sur le moment, mais là, je comprends. Mais donc, je me dis, voilà, chacun et chacune peut s'emparer de toutes les ressources que je donne, parce que beaucoup sont accessibles. Et voilà, et si c'est des sujets qui intéressent, et c'est aussi des bonnes ressources pour mes confrères et consœurs journalistes qui peuvent aller chercher, ou des gens qui peuvent, par exemple, dans Manger les riches, justement, je cite beaucoup de médias qui sont très identifiés à gauche, Basta, Bastamag, Reporter, etc., que plein de gens ne connaissent pas forcément, en fait, qui sont des médias indépendants. Et j'aime bien aussi pouvoir montrer que, en fait, les seuls médias qui s'intéressent à certaines choses, ce sont ces médias-là, en fait. Et que ça donne, ça fait un peu boule de neige. D'autres médias vont s'y intéresser, par exemple, sur la question de la sécu sociale de l'alimentation. Y a plein de médias indépendants qui en parlent depuis des années. Mediapart l'a fait il y a très longtemps. Là, on a plus en plus de gens qui en parlent, ou même des médias très locaux. Et justement, c'est ça qui est très intéressant, la PQR, les médias la presse quotidienne régionale, pardon, ou la presse locale. Mais on voit qu'il y a France Inter qui a fait un truc dessus, France Culture aussi. Donc on voit que ça commence aussi à, voilà, à les gens, enfin, c'est stimulant, quoi. Donc j'aime bien me dire que ces sources-là permettent d'aller plus loin, mais j'essaye de faire des bouquins aussi où on n'a pas besoin d'aller chercher, tu vois, CF, allez voir ailleurs si j'y suis, démerdez-vous avec vos chiffres, tu vois, et de décrypter les chiffres et de me taper, de me faire 45 pages de PDF pour dégager peut-être trois éléments qui me semblent importants. Enfin, tout est important, mais je ne peux pas écrire. Tu vois. Donc j'aime bien, et autant sur les deux premiers, sur les questions de genre et d'alimentation, c'est beaucoup de chercheuses... canadienne ou des États-Unis qui travaillent dessus, comme d'habitude, sur les questions de genre, on est quand même assez en retard. On a des gens qui travaillent en français, mais pas beaucoup. Autant sur Manger les riches, les infos, vu que genre Greenpeace, on les antennes partout, Oxfam aussi, donc c'est des infos globales. Donc je peux faire un livre qui parle vraiment de manière plus globale, et après je resserre sur la France, sur la sociologie, etc. Mais j'aime bien l'idée de me dire que, en France, on n'est pas du tout en retard sur ces questions-là, en fait. Ça, c'est intéressant. Politiquement, on n'est pas en retard là-dessus. On a plein de gens qui en parlent, plein de chercheuses qui parlent de ça, plein de journalistes, plein de médias. Mais à la télé, on avait toujours Thierry Marx pour parler du bien manger, quoi. Alors qu'il y a plein d'autres gens à interviewer, plutôt que des grands chefs qui ont plein d'étoiles et plein d'argent, quoi.
Et ce qui, de ce fait, par l'étude en fait de tous ces documents, de tous ces chiffres, tu vas en effet en fait aller désinguer tous les mensonges, toutes les informations fausses,
les clichés,
etc. Et notamment parce que voilà, on est très nombreux à être touchés par l'inflation ces derniers temps. Les prix des livres ont explosé, les réimpressions sont beaucoup plus longues. Enfin, rien que nous dans notre métier, on le voit. Mais alors, et tu l'expliques très bien, au niveau alimentaire, c'est catastrophique. Il y a un nombre de personnes qui doivent choisir, en fait, le nombre de repas qu'ils doivent faire
par jour. Un tiers des Français, Françaises,
voilà,
se privent d'un repas par jour pour pouvoir
c'est
soit
quand même fou.
Se nourrir leur enfant, soit parce qu'ils ont, ils et elles n'ont pas les moyens d'en manger trois, quoi.
C'est ça. Et on lit ça, donc on lit ces chiffres, on voit en fait l'urgence d'agir, de trouver des solutions, de revenir vers des alimentations vraiment caloriques qui vont aider en fait les personnes et non pas faire un petit tremplin à un moment donné. Oui, on va manger quelques chips et puis en fait on aura toujours faim 2 heures plus tard. Enfin, toi, tu nous mets face à tout ça, mais tu nous dis aussi, et alors... Moi, je crois que j'ai toujours pas digéré cette info, que les supermarchés du hard discount, donc Lidl en tête, en fait, sont, j'allais dire un très gros mot, mais je ne vais pas dire ce gros mot, en fait, utilisent...
Des malotrus,
voilà, sont très malhonnêtes, et vont en fait user l'argument de l'inflation pour en fait augmenter leur prix, et c'est ce rapport poids-prix, en fait, qui va être complètement bouleversé.
En fait,
tous
les
tous, en fait.
Tout le monde le fait, c'est ce qu'on appelle la shrinkflation aussi.
Ouais.
Donc là, c'est Foodwatch qui a alerté là-dessus, sur on va vous faire un packaging qui semble le même qu'avant, le prix est le même, sauf qu'on a retiré, vous avez entendu parler de ça peut-être, 50 grammes du produit, et c'est pas marqué dessus, donc vous achetez au même prix un truc où il y en a moins, donc le prix au kilo augmente. C'est pas illégal. Parce qu'ils font bien ce qu'ils veulent, les industriels, ils ont le droit de baisser le truc, ils sont pas obligés de vous le dire, en fait. C'est à nous de regarder, oh là là. On a que ça à faire. Et donc, il y a ça. Mais moi, surtout, sur le hard discount, ce qui me choque profondément, c'est l'étude que je cite de l'UFC Que Choisir, qui a comparé deux paniers. Et ils sont allés faire les courses dans un supermarché classique et dans du hard discount. Aldi, Lidl, etc. Alors déjà, il faut savoir que Aldi, les deux patrons d'Aldi, c'est la plus grosse fortune d'Allemagne. Voilà. Chercher l'erreur quand même. Hard discount, les gens qui vont faire les courses là-bas font devenir milliardaires des gens. Ça ruisselle que dans leur piscine, apparemment, parce que ça ruisselle pas beaucoup dans les comptes en banque. Bref, déjà, je trouve ça assez obscène, en fait. Enfin, rien que cette idée-là, je la trouve d'une obscénité. Et pour moi, ça résume plein de choses. Juste cet exemple-là résume ce qui ne va pas dans le système. Et l'étude de l'UFC Que Choisir, donc deux paniers, ils sont allés voir, donc, et ils ont remarqué qu'en faisant les courses dans du hard discount, c'est pas forcément moins cher. Et qu'en fait, c'est les marques nationales qui vont être moins chères. Donc, en gros, c'est le produit d'appel. Les gens vont se dire, ah bah tiens, effectivement, les yaourts Danone sont moins chers chez Aldi que chez Monop, etc. Sauf que les marques qui sont pas des marques nationales vont être plus chères. Et en plus, on a l'impression, quand on fait des courses là-bas, qu'on en aura pour moins cher, donc on peut se faire un petit kiff, on se dit, bah tiens, je vais me prendre ça en plus et tout, ou alors je vais m'en prendre plus. Donc on s'en tire pour plus cher. Donc en fait, c'est complètement contre-intuitif. Je dis pas que c'est systématique, chaque fois que vous y allez, machin, mais en fait, il se rattrape toujours quelque part. Et il n'y a pas que le prix, puisqu'évidemment tout est lié, je parle aussi des conditions de travail dans le hard discount. Il y a un turnover de dingue parce que les gens sont à tous les postes. Et peut-être qu'il y a des gens concernés ici qui ont travaillé là-bas. C'est une catastrophe humainement, en termes d'exploitation. C'est abominable, en fait. C'est pas pour rien que les gens ne restent pas deux ans, en fait, chez Aldi ou chez Lidl ou quoi. Donc il y a une casse humaine qui est faite, en plus d'être une semi-arnaque, on va dire. On vous fait croire que vous allez avoir pour beaucoup moins cher. Et effectivement, après, la grande distribution, elle s'est gavée sur les marges, sur ce qu'on appelle les MDD, les marques de distributeurs. Et là, on l'a vu, il y a aussi l'UFC qui a sorti un graphe il n'y a pas longtemps, je l'avais vu sur Twitter, où les marques nationales commencent légèrement, et ils se sont gavés aussi, hein, parce qu'ils se sont dit qu'on était tous trop cons et connes, parce que ça, il y a l'inflation, donc on sait que ça va augmenter, donc on se dit, bah ok, ça augmente, c'est normal. Mais vu que nous, on ne peut pas savoir jusqu'à quel point ça va augmenter avant de se faire prendre pour des pigeons, bah ils ont augmenté à donf, en se disant, bah nous, on est un peu... C'est la greedflation, ils ont été trop gourmands, à tes souhaits, en se disant, bah en fait, tu es immortalisé sur ce podcast. Non, on se connaît en plus. Et Marion de la déferlante, mesdames et messieurs. Bref, et donc, ils se gavent, et Leclerc, par exemple, entre autres, est venu en plateau dire que c'était pas de sa faute, et que lui faisait tout pour que, justement, les marques nationales, pour notre pouvoir d'achat, blablabla, sur son cheval blanc et tout. Sauf que quand ces chiffres-là sur les marques distributeurs sortent, ah bah, il n'y a plus personne pour en parler. Parce que tout le monde se dit « Non, c'est toi qui en profite !»« Non, c'est toi qui en profite !»« Non, c'est toi qui en profite !» Ah bah non, c'est toi qui en profite, en fait. Et donc là, c'est « Poup !» Le numéro demandé n'est plus attribué. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on voit que les marques distributeurs, elles restent comme ça. Elles ont augmenté et elles ne redescendent pas. Et c'est terrible parce que même les gens qui avaient les moyens d'acheter des marques nationales, etc., qui regardaient moins que les autres quand ils font leur... Il y a plein de gens qui font les courses sans regarder les prix, hein. Il y a quand même pas mal. Et bien, ces gens-là qui ont perdu aussi du, je cite, pouvoir d'achat, en tout cas, le reste à vivre était à cause de l'inflation et autres, moindres, se sont rabattus sur les marques distributeurs, mais qui elles-mêmes ont pris beaucoup. Et quand vous ne pouvez plus acheter les marques distributeurs, vous achetez quoi en fait ? C'est la question, vous achetez pas en fait, enfin, vous vous démerdez quoi. Vous rognez ailleurs, mais quand vous ne pouvez pas rogner ailleurs, vous faites quoi ? Et donc, moi, j'avais envie aussi de savoir à qui ça profite. Enfin, qui vraiment nous... Qui raconte des mythos en plateau, en vrai, quoi ? Qui raconte des mythos ? Vraiment, qui vient nous faire croire qu'il n'en profite pas ? Vous regardez la fortune des géants de l'agroalimentaire ? Waouh ! Enfin, c'est du délire, quoi. Et ils osent venir en plateau dire que c'est pour nous qu'ils le font et qu'eux, franchement, ils se sacrifient pour nous. Et donc, peut-être qu'on fera un jour une statue à la gloire de la famille Leclerc. Saint-Michel-Édouard, Saint-Édouard, Saint-Michel, je sais plus tous les prénoms, là. Voilà. C'est des mêmes choses, c'est des clones, en fait. C'est le même prénom, parce que comme ça, ils ne confondent pas. Non, mais voilà. Donc, moi, ça m'a vraiment... quand je voyais les plateaux télé, où il y a tous ces mecs-là qui venaient vous dire que c'était pour vous qu'ils faisaient ça, et qu'ils faisaient vraiment attention, et qu'ils compressaient les prix au maximum, tu vois, parce que vraiment, comme ça. Bah, c'est faux. Enfin, c'est faux. Puis c'est pas que ça, et le FMI le dit aussi. Enfin, les industriels se sont gavés, la grande distribution se gave, l'agriculteur se gave pas du tout, il se suicide, hein, un par jour. Donc, et ça, pareil. On n'a jamais d'agriculteurice en plateau. Ça n'existe pas, en fait. Les seuls moments où on les voit, c'est l'amour est dans le pré. C'est vrai. Et le salon de l'agriculture, exactement pour serrer la paluche d'Emmanuel Macron et taper le cul d'une vache, quoi. Et pour tout, encore une fois, se galvaniser de notre terroir et la France, la ferme France, et vive la France, cocorico, bleu, blanc, rouge, etc. Regardez, machin. C'est tout. Donc on vient pour un Disneyland de la bouffe où tout le monde a l'air ravi d'être là et où en fait quand il y en a un qui dit qui insulte Sarkozy, ça y est, c'est, tu vois, c'est waouh, fait les gros titres, mais personne fait les gros titres sur les suicides des agriculteurs ou sur le combien de gens sont RSA, sur le surendettement. Il y a Nicolas Lejean qui a écrit un bouquin qui s'appelle Silence dans les champs, que je vous conseille vraiment fortement. Il est shortlisté pour le prix Albert Londres. Et s'il l'a, ça va mettre vénère toute la Bretagne agricole et ça va être génial. Et il parle vraiment, lui, il enquête, il est dans le collectif Splane, qui est un collectif indépendant de journalistes en Bretagne, qui prennent beaucoup de risques d'ailleurs, qui sont menacés, etc. Et donc, lui, ça fait 7 ans qu'il travaille là-dessus. Il enquête justement sur l'agro-business. Et ce bouquin est formidable pour comprendre. Justement, pour moi, c'est un bouquin où on peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'on, là, c'est vraiment sur la Bretagne, qui est la terre, la ferme France, c'est vraiment ça, le grenier de la France. Et il parle de tout ça, quoi, la politique, l'argent, le surendettement, mais vraiment, le surendettement, c'est catastrophique, il parle des suicides, du mal-être et tout. Et ça, tu vois, pour moi, c'est aussi ça, c'est mon livre, s'il peut donner envie d'aller chercher encore plus loin, de savoir comment l'agriculture, qu'est-ce que l'agriculture vraiment en France. Ça, je parle des subventions, je parle de la PAC, quoi, un truc pareil, hyper opaque. Non, c'était pas un jeu de mots, arrêtez de rire à chaque fois. Non, j'ai écrit Pac-Man dans le livre, ça c'est un vrai jeu de mots, mais M-A-2-N-E, wouh. Donc voilà, et c'est ça, en fait, j'ai envie de rendre accessibles des choses qui ne le sont pas, dans le sens où elles le sont parce que tous les chiffres sont en ligne, mais où en fait, on se dit, et moi la première, je vais rien comprendre, moi j'ai un bac L, une licence d'anglais, donc si vous voulez, la finance et l'économie, wouh, je ne comprends rien, et j'ai fait relire le premier chapitre par des économistes et par des gens qui ont bossé dans la finance, et qui aujourd'hui sont des gros gauchistes, donc voilà, comme quoi, parfois on peut en revenir. Et c'était vraiment intéressant de leur soumettre ça, et ils m'ont dit, bah non, ok, il n'y a pas d'erreur, donc j'ai bien fait mes devoirs, donc comme quoi, j'aime bien réussir à restituer ces choses-là, et les rendre intelligibles et compréhensibles, et les ramasser sur un livre, en fait. Et après, si les gens veulent aller se taper 45 pages d'un rapport sur la PAC, ben c'est très cool, et j'en serais ravie, mais en tout cas, il y a les éléments principaux qui mettent vénère assez facilement en quelques pages, et qui montrent à quel point bah, c'est de l'argent public aussi, enfin, et à qui ça profite ? Bah, ça profite, la PAC, par exemple, ça profite aux plus grosses exploitations. 80% du budget de la PAC est reversé à 20% seulement des agricultrices. Et la Cour des comptes dit que c'est inefficace et que ça donne de l'argent à ce qui est le plus nuisible et le moins durable. Et c'est des primes à l'hectare, en fait. Donc, pareil, c'est, on veut nous faire croire que l'agriculture en France, il y a, vous voyez, les pubs. Ce qui est bien en ce moment, c'est les publicités pour la grande distribution ou pour des grosses marques nationales et qui montrent, machin, Michel dans une coopérative, il est très heureux. Alors, lisez le bouquin de Nicolas Jean, vous verrez si les coopératives, c'est vraiment le bonheur. Pareil, on veut nous faire croire, en fait, qu'on prend soin des éleveurs, des maraîchères, etc. Et non. Ah, spoiler, la réponse est non. Mais ces gens-là, on ne les voit jamais. Vraiment, on ne les voit pas. Et moi, ça m'a vraiment... franchement, ça m'a buté de ne pas les voir quand on parlait de l'inflation. Et on les voit seulement quand les médias vont faire des sujets où ils vont jeter des tonnes de lait, vous savez, ou du fumier devant telle préfecture, etc. Et en fait, ils sont vénères, donc on a juste l'image. C'est comme les militants antispécistes, on les montre que quand ils sont vénères et qu'ils ont jeté du sang sur le mitrine pour les faire passer pour des hystéros qui sont complètement débiles, quoi, et qui sont des terroristes. Et là, c'est pareil, on fait passer des gens comme ça pour des débiles ou bien des gens hyper violents ou trop radicaux et qui n'ont pas de revendications et qui n'ont rien compris, en fait, voilà. Mais en fait, sans eux, on crève littéralement, en fait, donc c'est compliqué. Donc j'avais envie, ouais, de fouiller un peu les poubelles de la France, quoi. Un peu ça, quoi.
C'est un peu ça.
Et ouais, les rapports qui ne sont pas enterrés, hein, mais que personne ne cite jamais. Tout le monde s'en carre.
Ben, en tout cas, c'est une bonne façon de comprendre comment on mange, qui nous fait à manger, qui produit cette nourriture, dans quel cirque, en fait, on est pris, mais avec des conséquences. Enfin, en fait, tu mets beaucoup d'humour, il y a des blagues, il y a un ton qu'on entend, hein, en jouer, etc. Mais en vrai, ce livre, c'est un contenu catastrophique. Enfin, l'état actuel en France est à questionner. Il y a un moment donné où c'est pas anodin que ce soit resté un impensé public, on va pouvoir dire ça comme ça, parce que même si tu le dis, les chercheuses ont fait beaucoup de travaux, il y a des disponibilités d'informations, etc. Mais pour autant, la personne lambda ne sait rien de tout ça parce qu'on pense pas à quel point on se fait avoir et à quel point on nous ment et à quel point, en fait, il y a quelque chose de très nocif, en fait, dans ce système.
Mais il y a un enfumage.
Mais complètement.
Non, mais pour de vrai. Sur l'aide alimentaire, par exemple. Donc là, on a eu le don de Bernard Arnault, 10 millions d'euros, bah lui, c'est, il nous a offert une sucette, quoi. Bon, je dis pas qu'il faut pas, c'est très bien, 10 millions, c'est nécessaire, mais bon, bref. Donc, on a les Restos du Cœur qui ont parlé, et heureusement, en fait, ce don a au moins permis de mettre en lumière l'aide alimentaire, mais jusqu'à un point, en fait, qui était le même point qu'avant, c'est on va leur parler. Le patron d'Assaut du Cœur vient dire que cet hiver, ils vont refuser pour la première fois en 30 ans des gens. D'ailleurs, aujourd'hui, sur France Info, est sorti un reportage de Raphaël Godet, justement, qui est allé dans une antenne des Restos du Cœur, où ça y est, les bénévoles doivent refuser des gens. C'est horrible. Je l'ai lu dans le train, j'ai pleuré. C'est horrible. Ça m'a mise dans une colère. Enfin, c'est infâme, ce papier, ça retourne les tripes. En fait, c'est atroce. Des gens qui sont, j'ai pleuré, qui sont à 60 euros près. Et on a, en plateau, des gens qui sont jamais interrogés là-dessus, tu vois. Concernés ou pas. Des gens qui pâtissent des politiques, quoi. Et on a des gens qui viennent te dire « Ah, mais vous vous plaignez, ben, on nous donne de l'argent, tu vois, mais quelle obscénité de venir nous dire ça, tu vois. » Les conséquences, c'est quoi. Et sur les Restos du Cœur, sur l'aide alimentaire, en fait, pas grand monde sait comment ça fonctionne, tu vois. Pas grand monde sait qui en profite de l'aide alimentaire, quoi. Que c'est défiscalisé, en fait, alors que c'est obligatoire de donner les invendus. Il n'y a pas grand monde qui le sait, tu vois. Et j'ai envie d'en parler parce que t'as l'impression que, tu sais, l'État, quand ils en parlent, ils sont contents d'en parler, tu vois. Ils sont là, oui, bravo, les Restos du Cœur, ils sont là, alors c'est génial et tout. Mais en fait, vous y êtes pour rien, les gars. Vous n'y êtes pour rien. En fait, c'est grâce à l'aide alimentaire que vous pouvez rester comme ça à ne rien faire. Sauf que là, la bombe, là, elle va exploser. Mmh. Les Restos du Cœur disent que dans 3 ans, ils risquent de mettre les clés de la clé sous la porte. Et mais je crois qu'en fait, on ne s'en rend pas compte de ce que ça va faire. Et de ce que là, les premières personnes qui sont refusées, ça va faire. C'est la révolution, en fait, là. C'est-à-dire que, comme dit Bénédicte Bonzi, elle a écrit un bouquin qui s'appelle « La France qui a faim ». C'est une chercheuse qui est partie en immersion. Elle a fait sa thèse dessus et son doctorat. Elle connaît très bien tout. Elle est partie en immersion au Restos du Cœur. Et elle a écrit un bouquin et elle dit, je la cite dans mon livre, elle dit l'aide alimentaire, c'est, je cite, le maintien de la paix sociale. Avec l'aide alimentaire, les gens ne vont pas moins aller voler parce qu'ils ont une aide. En fait, parce que l'aide alimentaire, c'est autant les repas chauds qu'on distribue sans condition de ressources dans la rue. Donc n'importe qui peut y aller. Enfin, n'importe qui. En tout cas, c'est disponible pour tout le monde. Il y a les colis alimentaires. Donc vous ne choisissez absolument pas non plus ce que vous mangez. On vous donne un colis et basta. Que vous soyez musulman ou musulmane, que vous soyez allergique à le moindre truc, quelles que soient vos envies, vos goûts ne comptent même pas. Et il y a aussi donc les banques alimentaires. C'est différent. Et en fait, s'il n'y a plus ça, comment on se nourrit ? Le problème, en fait, en France, et dans tous les pays du monde occidentalisés, on va dire, c'est que la faim, elle se voit pas. C'est-à-dire qu'on voit le mal-logement. Tous les jours, on passe tous devant des gens qui n'ont pas de maison. Aujourd'hui, les gens qui ont faim, le nouveau public des banques alimentaires et de l'aide, c'est des étudiantes et étudiants. Et des gens qui ont un CDI et un toit sur la tête. Donc on voit pas la faim. C'est-à-dire que ça ne se voit pas. On a tous des gens, en fait, des collègues, des étudiants, qui, en fait, ont sûrement faim et se privent. Et ne le disent pas parce qu'ils ont ou elles ont honte de ça. Et ça, pour moi, là, en fait, le fait que l'aide alimentaire arrive au bout, je crois qu'on n'a pas pris la mesure du bordel que ça va foutre, en fait. Les gens, ils vont voler. Ils vont piller des supermarchés parce qu'ils ont faim. Mais quel échec! Quel échec sociétal, quoi! Se nourrir, c'est un droit. Hein. J'ouvre mon livre là-dessus. C'est censé, censé être un droit, comme le droit au logement opposable en France, vous voyez, il y a deux sortes de droits, les droits opposables et pas les droits opposables. Droit opposable, ça veut pas dire grand-chose, en fait, parce que c'est pas parce que vous allez demander un logement que vous allez l'avoir dans 3 mois, vous attendez 5 ans pour l'avoir. Mais l'alimentation, c'est censé être un droit au niveau mondial. Mais, en fait, c'est inscrit, mais en fait, personne n'est obligé de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que les États ne sont pas obligés de vous nourrir. Alors que c'est inscrit, hein, une nourriture suffisante, en gros, c'est suffisamment correctement et selon la culture de chacun. Donc c'est respecter les personnes en leur donnant à manger. C'est pas leur filer un truc avec une DLUO dépassée, comme on fait dans les banques alimentaires, parce que c'est les invendus qu'on vous donne. Ce qu'elle appelle, bon-y, une violence alimentaire. Mais donc, en fait, on n'a pas le droit d'être nourri. C'est que c'est pas un droit. En fait, on n'a pas de droit, finalement. Il y a vraiment... On a parlé de...
Si, on a le droit de consommer.
Ouais, bah, en fait, on a le droit d'acheter. C'est pire que le droit, c'est qu'on est poussé à ça parce qu'on dit que c'est comme ça qu'on existe. Quoi, ouais. Mais en fait, l'aide alimentaire, c'est vrai que ça me bute. Quoi. C'est fini, là. Mm. Enfin, là, je pense qu'on va assister à des trucs qu'on n'est pas prêts et prêts. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, ça me fait très peur. Mm. parce que en France, on n'a jamais vécu, et en Europe, d'émeutes alimentaires, ce qui a été vécu dans plein de pays en 2008, par exemple. Ce qui a aussi mis le feu à des révolutions, notamment des révolutions arabes avec des gens qui avaient faim, et ça a foutu un bordel pas possible, et on voit ce que ça a donné, c'était des révolutions. Et en France, je crois qu'on ne prend pas la mesure de ce que ça va être quand les gens ne vont plus pouvoir manger, en fait. Et le fait de voir un gouvernement qui ne bouge pas et qui ne fait qu'empirer les choses, de conditionner des aides sociales à des heures de travail, quoi, qui retire l'AME. Enfin, ce que je trouve dingue, c'est que s'ils tuent tout le monde, ça va être compliqué pour eux de rester là, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de buter les gens, et ils se disent « Ah, on sera bien entre nous !» Vous allez peut-être vous buter entre vous, après. En fait, ça, c'est... Et à un moment donné, tout le monde se bute entre soi. Qui vous allez exploiter, en fait? Et c'est ça que je comprends. Enfin, je comprends même pas la stratégie, quoi. Stratégiquement, c'est complètement idiot. Voilà, sur une note extrêmement positive, voilà. Bon, non, pardon, mais c'est ça, sur l'aide alimentaire, ça m'a... Je ne connaissais pas beaucoup le sujet, et je me suis plongée pour un chapitre du livre. Et ça, c'est le truc, en ce moment, ça me... Voilà. Mmh. Et vu que c'est en plus la période, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, c'est un truc qui, comme vous voyez, qui me touche beaucoup et qui me met extrêmement en colère, parce que j'arrive même pas à comprendre comment c'est possible, et c'est tout le truc du enjeu du livre, comment c'est possible de pas voir l'enjeu de l'alimentation comme un enjeu central. Enfin, pour moi, c'est le logement et la bouffe, quoi. Pour moi, c'est central. Tout le monde. C'est pour ça que la propriété, c'est un truc qui me... Mais tout le monde devrait avoir d'office de quoi se loger et de quoi se nourrir correctement, suffisamment et selon sa culture, quoi. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci.
Pour
Merci.
Cet immense travail. Voilà. Je pense que vous avez le livre à offrir à tout le monde. Et en plus, voilà, tu accompagnes ça de conseils aussi sur si on veut donner pour les banques alimentaires, c'est quoi en fait qui est vraiment
nécessaire.
Oui,
ça aussi, en fait, voilà. On nous dit donner, donc les gens donnent les mêmes choses et tout, mais voilà, il y a des choses aussi, si vous avez les moyens ou envie, quand il y a des collectes en supermarché par exemple, si vous avez les moyens de donner du poisson, des boîtes de poisson, des boîtes de thon, ça c'est hyper, en tout cas si vous avez les moyens de le faire, ça c'est un truc important. Le poisson, c'est un truc qui manque pour les gens qui n'ont pas beaucoup de thunes et qui bénéficient de l'aide alimentaire. Voilà. Ou des choses, ou des soupes, mais des soupes avec vraiment des légumes dedans.
C'est ça. Ce qui nous nourrit vraiment. Merci beaucoup, Nora.
Merci.
Alors, heureuse ? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Affranchie Podcast en compagnie de Nora Boisouni à l'occasion de la publication de son ouvrage « Manger les riches, la lutte des classes passe par l'assiette » chez Nourriture Fu. L'Affranchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Le Faucon pour l'univers graphique. Sans savoir où tu vas. Résiste. Prouve que tu existes. Avec l'Affranchie Podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com